Italo Calvino, vous avez quelque chose comme un problème d'identité ?
J'aime beaucoup les auteurs anonymes. Je crois que les auteurs duquel on ne connaît rien ont une force majeure.
Ça peut pas faire de mal.
Homère, Shakespeare même, que l'auteur parle à travers ses œuvres, je crois que c'est un grand avantage et qu'il n'y a pas cet encombrement qui est la personne.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
J'avais depuis longtemps une image en tête. Un garçon qui monte sur un arbre. Il monte. Et que lui arrive-t-il ? Il monte. Et il entre dans un autre monde. Non, il monte et il rencontre des personnages extraordinaires. Voilà. Il monte et voyage d'arbre en arbre des jours entiers. Mieux, il ne redescend plus. Il refuse de descendre à terre. Et passe toute sa vie dans les arbres. Allais-je en faire l'histoire d'une fuite des rapports humains, de la société, de la politique ? Non, cela aurait été trop évident et futile. Le jeu ne commençait à m'intéresser que si je faisais de ce personnage, non pas un misanthrope, mais un homme continuellement dévoué au bien de son prochain, inséré dans le mouvement de son temps, qui entend participer à chaque aspect de la vie active, du progrès des techniques à l'administration locale, à la vie galante, tout en sachant que pour être vraiment avec les autres, la seule voie est d'être séparé des autres, d'imposer obstinément aux autres et à soi-même cette singularité incommode, et cette solitude de chaque heure. Dans Le Baron Perché, l'homme complet s'apparentait à celui qui réalise sa propre plénitude en se soumettant à une discipline volontaire, rude et contraignante. Il se passait avec ce personnage quelque chose pour moi d'insolite. Je le prenais au sérieux. J'y croyais, je m'identifiais à lui. Cet auteur qui se sent si proche de son personnage, c'est Italo Calvino.
Ce garçon devient un homme et ne descend plus des arbres. Ce n'est pas un symbole de quelque chose de très précis, mais je crois qu'on peut trouver aussi des significations à ça. J'aimerais savoir de vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Ce n'est pas sur la vraisemblance qu'on peut les juger.
Né en 1923 et décédé en 1985, ce grand écrivain italien a produit une œuvre aussi ample que variée, souvent placée sous le signe de l'humour. Preuve en est avec les trois volumes de son cycle, Les Ancêtres, qu'il écrit dans les années 50 en déclinant une même formule, une histoire invraisemblable dans une époque lointaine. Je vous propose ce soir d'ouvrir La Nouvelle Année, Bonne Année, et le second volume de la trilogie, qui est aussi l'une de ses œuvres les plus célèbres. Partons à la rencontre de ce fameux Baron Perché, dont on vient de découvrir la genèse. Soit un jeune noble dans l'Italie des Lumières qui décide sur un coup de tête de s'agripper aux branches et ne redescend plus. Observant le monde depuis la cime des arbres, notre excentrique s'affranchit de toutes les conventions pour mieux défricher de nouveaux chemins. Avec lui, on chasse, on sème, on invente, on philosophe, sans toucher terre. Pour cette première émission de notre cycle Italo Calvino, suivons donc le jeune Côme, l'averse du rondeau, ainsi se nomme notre Baron Perché, et prenons un peu de hauteur sur le vaste monde. Traduction de Juliette Bertrand pour les éditions du Seuil. Découvrons d'abord la scène qui va bouleverser le destin de notre héros. Nous sommes au nord de l'Italie, au XVIIIe siècle, chez les Laverse du Rondeau. Dans cette famille noble, les trois enfants rivalisent de malice. Pris de dégoût pour la cuisine de leur sœur, Blaise, le narrateur, et son grand frère, Côme, entreprennent de libérer les escargots qui doivent bientôt passer à la casserole. Mais la stratégie enfantine ne passe pas inaperçue. On mettait d'ordinaire les escargots à la cave, dans un tonneau où ils jeûnaient tout en avalant du son qui les purgeait. En déplaçant le couvercle du tonneau, on apercevait une sorte d'enfer. Les escargots remontaient avec une lenteur annonçant déjà l'agonie, parmi les restes de sons et des stries où se mêlaient grumeaux de bave et excréments colorés, souvenirs du bon temps passé au plein air parmi les herbes. Pour leur épargner de rencontrer notre sœur, cette sinistre cuisinière, et pour nous épargner ces festins, Côme et moi pratiquâmes un trou dans le fond du tonneau. En partant de là, nous traçâmes ensuite, avec des brins d'herbe imbibés de miel, une route aussi praticable que possible. Il s'agissait d'inciter les escargots à fuir jusqu'à une petite fenêtre donnant sur un massif. Le lendemain, nous descendîmes dans la cave pour contrôler la réussite de notre plan. Déjà, une file assez serrée d'escargots courait sur le sol et les murs, tout le long de notre piste jusqu'à la petite fenêtre. Comme la cave était noire et encombrée, nous espérions bien que nul ne les découvrirait et qu'ils auraient le temps de se sauver tous. Mais notre enragée de sœur parcourait, de nuit, toute la maison pour chasser le rat, un chandelier à la main, un fusil sous le bras. Cette nuit-là, elle traversa la cave et la lumière de sa chandelle vint donner sur un escargot qui s'était égayé au plafond avec son sillage de bave argentée. Un coup de fusil retentit. Nous sursautâmes tous dans nos lits. Après avoir anéanti l'escargot et fait tomber un morceau de crépi, notre sœur se mit à crier de sa voix stridente « Au secours ! Ils se sauvent tous ! Au secours !» Les domestiques accoururent à moitié nus, ainsi que notre père armé d'un sabre et l'abbé sans sa perruque. À la clarté des torches, commença une chasse générale aux escargots. Personne ne se souciait vraiment de les rattraper, mais maintenant qu'on était réveillé, on ne voulait pas, par amour propre, admettre qu'on s'était dérangé pour rien. On découvrit le trou pratiqué dans le fond du tonneau et on comprit immédiatement qui l'avait fait. Notre père vint nous chercher au lit, armé du fouet du cocher. Nous allâmes échouer dans la lugubre petite pièce qui nous servait de cachot. On nous maintint là 3 jours, au régime du pain, de l'eau, de la salade, de la couenne et du minestrone froid. Heureusement, nous aimions ça. Le premier repas en famille qui suivit fut celui du 15 juin à midi. Il semblait qu'il ne se fût rien passé, que tout fût normal. Mais qu'avait préparé notre sœur ? Un potage à l'escargot, suivi d'une entrée d'escargot. Mon frère Côme refusa de toucher la moindre coquille. Moi, je cédai et commençai d'avaler les mollusques. Alors, demanda notre père à Côme, « Non, non et non, » répondit Côme en repoussant le plat. « Quitte cette table !» Mais déjà Côme nous avait tourné le dos et sortait de la salle à manger. « Où vas-tu ? » À travers la porte vitrée, nous le vîmes prendre dans le vestibule son tricorne et sa petite épée. « Je sais où je vais » cria-t-il, et il courut dans le jardin. Au bout d'un moment, nous l'aperçûmes par les fenêtres qui grimpaient dans le chêne vert. Il avait la tenue et les habits fort soignés que notre père exigeait à table. Cheveux poudrés et queue nouée d'un ruban, cravate de dentelle, petit habit vert à basque, culotte mauve, l'épée au côté et de longues guêtres de peau blanche montant jusqu'à mi-cuisse, qui était l'unique concession à notre vie campagnarde. Ainsi vêtu, il se hissait le long de l'arbre noueux, remuant bras et jambes au travers des branches, avec la précision et la rapidité que lui avait donné le long entraînement auquel nous nous étions livrés. Jusqu'alors, nous passions de longues heures dans les arbres, et ce non pas pour y chercher des fruits ou des nids, comme la plupart des garçons, mais pour le plaisir de triompher des reliefs difficiles et des fourches, d'arriver le plus haut possible, de trouver de bonnes places pour nous installer et regarder le monde au-dessous de nous. Il me parut donc naturel que la première idée de Côme, devant l'injuste acharnement des siens, eût été de grimper dans le chêne vert, notre arbre familier. De ses branches tendues au niveau des fenêtres de la salle à manger, Côme pouvait imposer à toute la famille le spectacle de son courroux et de son indignation. Notre père se pencha par la fenêtre. « Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée » cria-t-il. « Je ne changerai jamais d'idée » répondit mon frère du haut de sa branche. « Je te ferai voir, moi, quand tu descendras. »« Oui, mais moi, je ne descendrai pas !» Ainsi parla Côme, et il tint parole. Le même jour, le garçon fait une heureuse rencontre. D'arbre en arbre, l'exploration de Côme le mène jusque dans le jardin de la famille voisine. Derrière le mur défendu, l'attend une petite fille. « bien qu'étant leurs voisins, nous ignorions tout des marquis de Rivalonde. Comme ils jouissaient depuis plusieurs générations de certains droits féodaux revendiqués par mon père, des sentiments peu amènes divisaient les deux familles et un mur haut comme un donjon séparait les deux jardins. Tout ce que nous pouvions voir, c'était le long du mur, les feuilles de couleur sombre d'un arbre nouvellement importé des colonies américaines, le magnolia. De notre mûrier, Combe se transporta sur la crête du mur, fit quelques pas en équilibre, puis suspendu par les mains, se laissa tomber de l'autre côté. Il disparut ensuite à mes yeux, et ce que je vais raconter, comme bien d'autres parties de ce récit, m'a été rapporté plus tard. Le magnolia enveloppait Combe du frais parfum des feuilles que le vent agitait. C'était tout le jardin qui embaumait. Le jeune garçon ne parvenait pas encore à parcourir des yeux ce désordre touffu, mais son odorat l'explorait. Il régnait là un grand silence. De minuscules roitelets s'envolèrent en criaillant. Et l'on entendit une petite voix qui chantait « Oh là là, la balançoire !» Combe regarda au-dessous de lui. Suspendue aux branches d'un grand arbre, une balançoire oscillait, où s'était assise une petite fille blonde qui pouvait bien avoir 10 ans. Elle regardait devant elle, les yeux mi-clos et le nez en l'air, comme pour jouer à la dame. Elle croquait une pomme à petits coups de dent, penchant la tête à chaque bouchée vers sa main qui tenait le fruit et la corde en même temps. Combe était descendu du haut de son magnolia jusqu'aux ramures les plus basses et se tenait les pieds plantés sur les deux branches d'une fourche. Le vol de la balançoire amenait la fille exactement sous son nez. Elle ne s'était jusqu'ici aperçue de rien. Tout à coup, elle le vit, là, debout sur son arbre, en tricorne et en guêtre. « Oh !» fit-elle. La pomme tomba de sa main et roula au pied du magnolia. Combe dégaina son épée, descendit sur la dernière branche, se pencha, atteignit le fruit de la pointe de son épée, le transperça et le tendit à la petite fille qui, entre-temps, avait fait un aller-retour complet en balançoire. « Prenez-la, dit-il, elle ne s'est pas salie. » La petite fille blonde regrettait déjà d'avoir montré tant d'étonnement devant ce garçon inconnu apparu dans le magnolia. Elle avait repris son air digne et son nez en l'air. « Vous êtes un voleur ? » demanda-t-elle. « Un voleur ? » fit Combe froissé. Puis il y pensa davantage et l'idée lui plut. « Oui, » dit-il. « Y voyez-vous quelque inconvénient ? Et que venez-vous voler ?» Combe regarda la pomme qu'il avait enfilée sur la pointe de son épée. Il se souvint qu'il n'avait presque rien touché à table et qu'il avait faim. « Cette pomme ! » déclara-t-il. Et il se mit à éplucher le fruit du tranchant de son épée. « Alors vous êtes un voleur de fruits ?» Mon frère pensa aux hordes d'enfants pauvres qui escaladaient murs et haies pour saccager les vergers, une engeance qu'on lui avait appris à mépriser et à fuir. Pour la première fois, il se dit que cette vie-là devait être bien enviable. Voilà, il allait pouvoir désormais se mêler à ses polissons et devenir l'un d'entre eux. « Exactement !» enchaîna-t-il. Il avait coupé la pomme et s'était mis à la mâcher. La petite fille blonde éclata d'un rire qui se prolongea pendant tout un aller-retour de balançoire. « Allons donc, je les connais, moi, les petits voleurs de fruits. Ce sont tous mes amis. Ils marchent pieds nus, ils vont en bras de chemise, ils sont ébouriffés, ils n'ont ni guêtre ni perruque. » Mon frère devint aussi rouge que la pelure de sa pomme. Il sentit son orgueil piquer au vif. « Ah !» s'écria-t-il, sentant monter en lui les rancœurs familiales. « Mon père a bien raison de dire que le marquis de Rivalonde est le protecteur de tout le brigandage de la région. » La petite fille sauta à bas de la balançoire. « Descendez tout de suite de là-haut. »« Je ne descendrai pas, » répondit Combe. « Je n'ai pas mis pied sur vos terres. » Alors, avec beaucoup de calme, la petite fille annonça « Je vais appeler nos serviteurs pour qu'ils vous donnent la bastonnade. Ça vous apprendra à vous fourrer chez nous. »« Ici n'est pas chez vous, » répéta-t-il. « Le sol est à vous, oui. » « Et si j'y posais le pied, c'est vrai que je m'égarerais sur vos terres. Mais en haut, non. Alors c'est à toi là-haut. »« Certainement. Tout ce qui est en haut est mon territoire personnel. » Il s'attendait à être tourné en ridicule. Ce fut tout le contraire. La fillette montrait un intérêt inattendu. « Alors, dit-elle, jusqu'où va-t-il ton territoire ?»« Partout où on peut arriver en marchant dans les arbres. Ici. » De l'autre côté, derrière le mur, dans l'oliveraie, jusque sur la colline, de l'autre côté de la colline. « Et jusqu'en France ? Jusqu'en Pologne et jusqu'en Saxe ?» dit Combe, qui ne connaissait en fait de géographie que les noms prononcés par notre mère. « Mais je ne suis pas un égoïste, moi. Je t'y invite, moi, dans mon territoire. »
Ça Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Sali per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai, vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare.
Les semaines passent. Au grand dam de sa famille, l'adolescente demeure perchée. La jeune Violette, au caractère bien trempé, ne le laisse pas indifférent. Pour l'impressionner, Côme se met au défi de rester dans les arbres. Ce qui n'était au départ qu'un caprice, se transforme alors en un mode de vie à part entière. Les premières journées de Côme dans les arbres n'avaient aucun programme défini. Tout était subordonné à son désir de connaître et de posséder son royaume. Il eût voulu en explorer tout de suite les confins, étudier toutes les possibilités qu'il lui offrait, le découvrir arbre après arbre, branche après branche. Nous le voyons continuellement repasser au-dessus de nos têtes avec l'air affairé et rapide des animaux sauvages. En réalité, il ne faisait que passer chez nous. C'était le mur de nos voisins, les rives à l'onde, qui l'attiraient. C'était là qu'à toute heure, nous le voyons disparaître, même quand la petite fille blonde n'était pas encore levée. Dans le jardin des Rivalondes, les branches se tendaient comme des trompes d'éléphants fabuleux. Des bambous jaunes et légers ondulaient avec un froissement de papier. Avide de savourer ce vert si différent de tous les autres, Côme, du plus élevé des arbres, se laissait pendre la tête en bas. Et le jardin à l'envers devenait forêt, non plus forêt terrestre, mais quelque monde inexploré. Puis Violette faisait son apparition. Côme l'apercevait brusquement sur sa balançoire, en train de prendre son élan, ou encore sur la selle de son cheval nain. Lorsque j'appris le départ de notre jeune voisine, j'espérais quelque temps que Côme redescendrait. De cela, il ne fut même pas question. Mais au faîte du plus grand arbre du jardin, mon frère grava de la pointe de son épée Violette et Côme. Son monde s'était transformé. Il était fait de ponts étroits et incurvés, tendus dans le vide. Il baignait dans une lumière verte qui changeait avec l'épaisseur du rideau des feuilles. Notre monde à nous se nichait dans les bas-fonds. Nous avions des silhouettes bizarres et ne connaissions assurément rien de ce qu'il percevait chaque nuit. Le travail du bois qui gonfle les troncs, le frisson des oiseaux endormis qui blottissent leur tête au plus doux de l'aile, l'éveil de la chenille et l'éclosion de la pigrièche. L'hiver arriva. Côme se cousit une grosse casaque de fourrure avec les peaux de plusieurs de ses victimes, des lièvres, des renards, des martres et des furets. Il portait sur la tête une toque de chat sauvage. Il se fit également une culotte en poil de chèvre, avec un fond et des genoux de cuir. Pour les souliers, il arriva à la conclusion que sur les arbres, rien ne vaut des pantoufles. Et il s'en fit une paire. Il était ainsi protégé du froid. Pour la nuit, Côme avait trouvé le système de loutre fourrée, une peau dont le pelage était tourné à l'intérieur et qu'il suspendait à une branche. Il se coulait là-dedans, y disparaissait entièrement et y dormait pelotonné comme un tout petit enfant. Le matin, au champ du jet, on voyait deux poings sortir du sac. Les poings se levaient, les bras s'ouvraient et s'étiraient interminablement, entraînant au dehors une figure qui bâillait, un torse chargé d'un fusil et d'une poire à poudre, enfin des jambes arquées. Les jambes émergeaient, se dégourdissaient. Côme remuait le dos, se grattait un peu sous sa casaque de fourrure et pouvait commencer enfin sa journée, frais et dispo. Il allait d'abord à sa fontaine. Car il avait une fontaine à lui. Près d'une cascade, un chêne dressait ses hautes branches. D'un morceau de peuplier, Côme avait fait une sorte de gouttière amenant l'eau de la cascade dans les branches du chêne. De la sorte, il pouvait boire et se laver. Quand la fantaisie l'en prenait, il faisait même la lessive. En mangeant une partie du produit de ses chasses et en troquant le reste contre les fruits et les légumes des paysans voisins, Côme vivait tout à fait bien, sans plus avoir besoin que notre maison lui fournît quoi que ce fût. Un jour, nous apprîmes qu'il buvait chaque matin son lait frais. il avait lié amitié avec une chèvre qui grimpait dans une fourche d'olivier, un endroit facile à 2 pieds de terre. Côme descendait jusqu'à la fourche avec un seau et trayait la bête. Il avait passé le même accord avec une poule, une bonne grosse poule rouge de Padoue. Il lui avait installé un nid caché au creux d'un tronc et trouvé là, un jour sur deux, un œuf. Il y pratiquait 2 trous d'épingle et le gobait. Autre problème, faire ses besoins. Au début, il n'y regardait pas de si près. Ici ou là, le monde est grand, il faisait là où il se trouvait. Puis, il s'avisa que ce n'était pas bien agir. Il découvrit sur les bords d'un torrent, la mer dense, un aulne qui faisait saillie, avec une fourche sur laquelle on pouvait se tenir très commodément assis. La mer dense était une rivière obscure, au cours rapide, cachée sous les roseaux, et les pays voisins y faisaient déboucher leurs égouts. Comme l'inverse du rondeau vivait en civilisé, respectueux de lui-même comme de son prochain.
Est-ce que vous classez votre roman dans les romans fantastiques ?
Italo Calvino.
Bien, j'emploie les mots fantastiques dans un sens un peu différent qu'en France, où on parle toujours de fantastique pour les romans de terreur, de surnaturel. Moi, je l'emploie plus dans le sens italien, imaginaire. Et il y a la grande tradition du roman philosophique du 18e et qui est toujours imaginaire, dans laquelle une image qui fait partie de notre expérience quotidienne se charge d'une signification.
Parvenu grâce à ses trouvailles à une autonomie complète dans les arbres, Côme demeure curieux. Il s'initie à l'apiculture et l'hydraulique aux côtés de son oncle fantasque revenu de Turquie. Dans le même temps, les villageois lui confient leurs craintes. Un sinistre brigand dépouille sans relâche les honnêtes gens. Le baron Percher finit par croiser la route du fameux bandit. Côme se trouvait sur un noyer un après-midi en train de lire. Depuis quelque temps, les livres lui étaient redevenus nécessaires. C'est ennuyeux à la longue de rester toute la journée le fusil épaulé à attendre un pinson. Sur le chemin qui descendait de la montagne, il vit apparaître en courant, tout essoufflé, un homme barbu et mal mis, sans armes. Derrière lui, 2 sbires, le sabre au clair, criaient « Arrêtez-le ! C'est Jean des Bruyères ! Cette fois, nous l'avons déniché !» Le brigand avait légèrement distancé ses poursuivants, mais s'il continuait à courir de ce pas embarrassé, il ne tarderait pas à les retrouver sur ses talons. Le noyer de Côme n'offrait aucune prise, mais le jeune garçon avait là une de ses cordes qu'il emportait toujours avec lui pour triompher des passages difficiles. Il en jeta un bout à terre et noua l'autre à la branche. Le brigand, quand il vit tomber cette corde presque sous son nez, se tordit les mains d'incertitude, puis s'accrocha à la corde et y grimpa prestement. Quand les gendarmes arrivèrent, la corde était remontée et Jean des Bruyères siégeait dans les frondaisons du noyer. « Je suis en haut !» cria Côme. Il s'était rapidement transporté sur un châtaignier. Les sbires levèrent aussitôt les yeux dans sa direction, sans inspecter les arbres d'alentour. « Bonjour, votre seigneurie, » firent-ils. « N'auriez-vous pas vu courir par hasard le brigand Jean des Bruyères ?»« Si celui que vous cherchez est un petit homme qui courait, il a pris du côté du torrent, » dit Côme. « Mille merci, votre seigneurie. » Et les gendarmes descendirent en direction du torrent. Côme retourna sur son noyer et reprit la lecture de Gil Blas. Le fugitif dévisageait Côme de ses yeux verts, éperdus et tout ronds. Pour être laid, il était laid. « Ils sont partis ?» se décida-t-il à demander. « Oui, oui, » répondit Côme, affable. « Vous êtes le brigand Jean des Bruyères ?»« Comment me connaissez-vous ?»«
Comme ça, de réputation. »«
Et vous, êtes le garçon qui ne descend jamais des arbres ?»«
Tiens, comment le savez-vous »«
Bien, moi aussi, le bruit qui court. » Ils se regardèrent d'un air poli, comme 2 personnages considérables qui se sont rencontrés par hasard et se félicitent de ne pas être inconnus l'un de l'autre. Côme, ne trouvant rien plus à dire, s'était remis à lire.
« Que lisez-vous de beau ?»«
Le Gil Blas de Le Sage. »«
C'est bien. »«
Mais oui. »« Vous êtes loin de la fin ?»«
Pourquoi ? Une 20aine de pages. »«
Quand vous aurez fini, je voudrais vous demander de me le prêter, » fit l'autre en souriant d'un air un peu confus. « Vous savez, je passe mes journées à me cacher, alors je ne sais plus quoi faire. » Une fois, j'ai arrêté une voiture dans laquelle il n'y avait pas grand-chose, mais j'y ai trouvé un livre. Je l'ai pris. J'aurais bien donné tout le reste du butin contre ce livre. Le soir, j'allume ma lanterne, je me prépare à lire. C'était du latin. Le latin, voyez-vous, je ne le sais pas. Mais C'est que c'est dur le latin, fit Côme, non sans s'apercevoir que malgré lui, il prenait un air protecteur. Celui que je lis là, c'est du français. En français, en toscan, en provençal, en castillan, je comprends tout, dit Jean des Bruyères. Une demi-heure plus tard, Côme avait fini son livre, Jean des Bruyères l'emporta. Ainsi commencèrent les relations de mon frère et du brigand. Aussitôt que Jean des Bruyères avait fini un livre, il le rapportait à Côme, en prenait un autre à la place et courait se tapir dans sa cachette pour se plonger dans sa lecture. Les livres, c'était moi qui les procurais à Côme. Je les prenais dans la bibliothèque paternelle. Mon frère se mit à les garder plus longtemps. Souvent, il revenait avec une reliure éraflée, tachée de moisie et portant des traces de bave d'escargot. Dieu sait où le brigand les mettait. Jean des Bruyères était pris d'une telle folie de lecture qu'il dévorait roman sur roman. Comme il passait toutes ses journées cachées, il avalait en un jour d'énormes volumes qui avaient occupé mon frère pendant une semaine. Dès lors, pas de quartier, il lui en fallait un autre. Il battait la campagne à la recherche de Côme, épouvantant les familles des hameaux et mettant à ses trousses toute la force publique des environs. Jean des Bruyères, pour comble, avait ses goûts. On ne pouvait pas lui donner un livre au hasard. Il revenait dès le lendemain trouver Côme afin de le faire changer. Avant de prendre un livre, il voulait que Côme lui en racontât un peu le sujet. Mon frère essaya de lui passer des petits romans d'amour. Le brigand revint furieux en lui demandant s'il le prenait pour une femmelette. En somme, la lecture devint l'occupation principale de Côme. À fréquenter ce brigand, Côme avait pris pour la lecture et pour l'étude une passion démesurée qui devait lui rester sa vie durant. Homme de lettres, notre jeune baron se révèle aussi homme d'action. Les romans, hélas, ne réussissent pas à Jean des Bruyères. Relâchant sa vigilance pour mieux lire, le brigand est arrêté et condamné à mort. Depuis les arbres qui entourent le cachot et jusqu'au dernier jour du condamné, Côme vint lui faire la lecture. Après l'exécution de son ami, le jeune baron poursuit son apprentissage et correspond avec les plus grands philosophes et savants de son temps. L'occasion d'apporter sa contribution à la chose publique se présente bientôt. Le travail des hommes avait toujours intéressé Côme. Mais jusque-là, sa vie dans les arbres, ses déplacements et ses chasses avaient répondu à des caprices solitaires. À présent, il avait envie de faire quelque chose d'utile pour son prochain. Et cela encore, à bien y regarder, lui était venu en fréquentant le brigand. On était en été, un été chaud et sec. Depuis une semaine, un incendie démesuré brûlait les bois de la côte vers la Provence. La nuit, on en voyait les lueurs en haut sur la montagne, comme un reflet persistant après le coucher du soleil. Dans une pareille aridité, arbres et plantes constituaient une immense amorce. Les vents semblaient devoir pousser les flammes de notre côté, à supposer qu'aucun incendie fortuit ou criminel n'eût auparavant éclaté par ici et rejoint l'autre, pour former un unique brasier tenant toute la côte. Devant ce danger, on vivait dans la terreur. Au cours de ces journées d'épouvante générale, Côme se constitua une réserve de barils, les remplit d'eau et les hissa au sommet des arbres les plus grands et les plus hauts placés. Il étudia le régime des torrents qui traversaient le bois, à moitié sec, et des sources qui ne leur envoyaient plus qu'un filet d'eau. Il s'en fut consulter notre oncle hydraulicien. « Mais oui !» s'écria notre oncle en se frappant le front. « Des réservoirs, des digues, il faut faire des projets !» Sur quoi ce dernier se répandit en petits cris et sautillements d'enthousiasme, cependant qu'une myriade d'idées se bousculait dans son esprit. Côme le chargea des calculs et des dessins. Il intéressa à l'entreprise les propriétaires de bois, les exploitants des forêts du domaine, les bûcherons, les charbonniers. Tous réunis sous la direction de notre oncle, ils construisirent des réserves d'eau un peu partout. Quel que fût le point où éclaterait l'incendie, on saurait où placer les pompes. D'en haut, Côme supervisait les travaux. Cela ne suffisait pas encore. Il fallait organiser un corps de pompiers, mettre sur pied des équipes capables, en cas d'alarme, de faire immédiatement la chaîne pour se passer des seaux de main en main et dompter l'incendie avant qu'il ne se fût propagé. On créa une sorte de milice qui faisait des tours de garde et des inspections nocturnes. Côme recrutait les hommes parmi les paysans et les artisans. Immédiatement, comme dans toute association, il naquit, parmi les équipes, un esprit de corps et une émulation, en vertu de quoi elle se sentait prête à faire de grandes choses. Côme passait ses nuits à faire la sentinelle dans le bois, solitaire, sur un arbre, comme il avait toujours vécu. Si d'aventure il apercevait quelques foyers d'incendie, il donnait l'alarme au moyen d'une petite cloche qu'il avait installée sur la cime de son arbre et qu'on pouvait entendre de loin. Grâce à ce système, les habitants réussirent à étouffer à temps 3 ou 4 débuts d'incendie et à sauver la forêt. C'était des incendies criminels. On découvrit les coupables en la personne de deux brigands qui furent bannis hors du territoire de la commune. L'été des incendies fut un bon été. Côme, pour sa part, sentit en lui une force, un contentement nouveau. Il s'était découvert des aptitudes de rassembleur et de chef. Il sut, pour son bonheur, ne pas en abuser. Il ne se voulut meneur d'hommes qu'un très petit nombre de fois au cours de sa vie, toujours dans des circonstances exceptionnelles et chaque fois avec le plus grand succès. Il comprit que les associations renforcent l'homme, mettent en relief les dons de chacun et donnent une joie qu'on éprouve rarement à vivre pour son propre compte. Celle de constater qu'il existe nombre de braves gens, honnêtes et capables, tout à fait dignes de confiance. Pendant tout ce temps, on n'entendait dire que du bien de notre frère. Ces bruits flatteurs arrivaient jusqu'à nous. Tout de même, il est très capable. Tout de même, il y a des choses qui fait bien, disaient les gens, du ton qu'on prend pour porter un jugement objectif sur une personne de religion différente ou de parti adverse, montrer qu'on a l'esprit large et qu'on comprend les idées auxquelles on répugne le plus. Notre père, lui, écoutait en silence et hochait la tête. On n'arrivait pas à savoir si toutes les nouvelles qui lui venaient ravivaient sa douleur ou si, au contraire, il acquiesçait, flatté au fond. C'était là le plus vraisemblable. C'est alors que Violette, l'impétueuse voisine, revient sans crier gare. Les années passent. Au décès de son père, Côme, devenu adulte, hérite du titre de baron. Il prend ses quartiers dans les arbres du centre-ville et du haut de sa branche raconte au badaud ses multiples aventures. Le succès du baron fantasque ne se dément pas et plus d'une femme monte au ciel avec lui. Mais quand il reconnaît son amour d'enfant revenu sur ses terres, Côme reste sans voix. Tandis que Violette parlait à ses domestiques, son geste et son regard l'entraînèrent jusqu'au magnolia dans lequel jadis Côme lui était apparu. Voilà qu'il y était encore. Surprise, elle le fut. Impossible de dire le contraire. Naturellement, elle se reprit tout de suite et fit la suffisante, selon son habitude. Mais sur le coup, elle avait été remuée. Tout avait ri en elle. Ses yeux, sa bouche. « Toi ?» Elle affecta de trouver cela tout naturel, mais ne parvint guère à cacher sa curiosité et sa satisfaction. « Alors tu es resté en haut tout ce temps-là sans jamais descendre ?» Dans la gorge de Côme montaient des pépiments de moineaux. Il lui fallut se maîtriser pour dire « Oui, c'est moi, Violette, tu te souviens ?» Sans jamais, vraiment jamais poser pied à terre. Jamais. » Et elle, reprenant ses distances. « Tu vois, tu y es arrivée, ce n'était pas si difficile. J'attendais ton retour. » Elle se remit à examiner Côme, qui ce jour-là était en tenue de chasse, hirsute, avec sa toque de peau de chat et son fusil. « On dirait Robinson. »« Tu l'as lu ?» demanda-t-il de suite, tout heureux de montrer qu'il était au courant. Mais Violette se retournait déjà vers ses gens. « Les feuilles mortes, c'est plein de feuilles mortes. » Puis revenant à lui, « Dans une heure au fond du parc, attends-moi. » Côme s'élança dans le fourré. Violette arriva presque ponctuellement à cheval. En montant sur sa selle, elle atteignit la branche, puis se hissa rapidement, chercha une fourche commode et s'y assit. « Tu sais tout ?» Tout sur moi, veux-je dire. Non, je viens seulement d'apprendre que tu es veuve. Bien sûr que je suis veuve. Tu ne sais jamais rien. Tu restes là sur les arbres à fourrer ton nez dans les affaires des autres et en fin de compte, tu ne sais rien. J'ai épousé le vieux Ptolémée parce que ma famille m'y a obligée. Il disait que je faisais trop la coquette et qu'il me fallait un mari. J'ai choisi le plus décrépit en pensant comme ça je serais veuve plus tôt. Et maintenant je le suis. Côme était là tout étourdi par cette avalanche de nouvelles et d'affirmations péremptoires. Violette paraissait plus loin de lui que jamais. Coquette, veuve et duchesse, elle faisait partie d'un monde inaccessible. Tout ce qu'il fut capable de lui dire, ce fut « Et avec qui tu faisais la coquette ?»« Voilà, tu es jaloux. Prends garde, jamais je ne le permettrai. » Côme, effectivement jaloux, eut un mouvement de colère. Mais immédiatement il pensa « Comment jaloux ? Elle admet donc que je puisse être jaloux d'elle ? Elle pense donc que nous... » Alors, tout rouge, bouleversé, il eut envie de le lui dire, de lui demander, d'entendre. Mais ce fut elle qui l'interrogea, sèchement. « Maintenant, dis-moi un peu ce que tu as fait, toi. »«
Oh, j'en ai fait des choses. Je suis allé à la chasse, même la chasse aux sangliers, mais surtout la chasse aux renards, aux lièvres et aux fouines. Puis il y a eu les pirates, des turcs et une grande bataille. Mon oncle y est mort. Et puis j'ai lu beaucoup de livres, pour moi et pour un de mes amis, un brigand, on l'a pendu. »
J'ai toute l'encyclopédie. J'ai même écrit à Diderot et il m'a répondu de Paris. J'ai fait des tas de travaux, taillé des arbres, sauvé une forêt de l'incendie. Et tu m'aimeras toujours d'une passion absolue plus que tout et tu seras capable de faire n'importe quoi pour moi ? À cette sortie, Combe répondit épouvanté : oui. Tu n'as vécu sur les arbres que pour moi, que pour m'aimer ? Oui, oui. Embrasse-moi. Il la pressa contre le tronc et l'embrassa. Elle déboutonna sa blouse blanche. Elle avait une poitrine toute jeune, avec de petites roses. C'est à peine si Combe l'effleura. Elle s'esquiva dans les branches. Il la guida. Chaque fois qu'il leur fallait passer d'une branche sur une autre, il la prenait par la main ou par la taille et lui montrait où poser les pieds. Il marchait dans des oliviers dressés au-dessus d'un talus escarpé. On apercevait entre les branches, tout découpées de feuillage, les éclats bleus de la mer. D'un coup, elle se découvrit, calme, limpide, vaste comme le ciel. Il y avait dans la fourche d'un noyer une excavation en cuvette. C'était un des refuges de Combe. Une peau de sanglier y était étendue. Violette s'étendit sur la peau. « Tu as amené ici d'autres femmes ?» Il hésita avant de répondre. « Alors Violette, si tu n'en as jamais amené, c'est que tu ne vaux pas grand-chose. »« Si, quelques-unes. » Il reçut une gifle en pleine figure. « C'est comme ça que tu m'attendais ?»
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Come fosse per noi, un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende ma parole pretende carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada solitaria, una strada che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.
C'est l'histoire d'une désobéissance.
Italo Calvino.
Mais une désobéissance, c'est une chose aussi difficile. C'est une chose qui est... C'est suivre une règle. Si on prend une voie de rébellion, il faut la suivre avec une rigueur morale. Et je pense que c'est ça que la mère de Combe comprend. Peut-être elle ne s'explique pas ça, mais elle le sent. Et c'est sur ce plan-là que parfois les parents et les fils trouvent un respect mutuel au-delà de profondes différences d'opinion.
Au terme d'une vie excentrique et généreuse, le baron tire sa révérence. Les amours de Violette et de Côme s'avèrent aussi passionnés que mouvementés. Ne supportant pas la jalousie de son baron, la belle libertine finit par le quitter définitivement. Passé le temps des amours, Côme s'illustre en politique. Il se passionne pour la Révolution française, avant de recevoir les hommages, quelque temps plus tard, de l'empereur Napoléon. Et quand, rattrapé par les années, le baron sent sa fin venir, il persiste et signe, comme on va le voir. Je me rappelle les débuts de la maladie. Côme transporta sa couche dans le grand noyer, en plein centre de la place. Jusque-là, avec son instinct sauvage, il avait toujours tenu caché ses retraites nocturnes. Il avait à présent constamment besoin de regards humains. Mon cœur se serra. J'avais toujours pensé qu'il n'aimerait pas mourir seul. C'était peut-être déjà un signe. Nous fîmes monter un médecin jusqu'à lui, au moyen d'une échelle. L'homme de l'art, quand il redescendit, ouvrit les bras avec une grimace. Je gravis moi-même l'échelle à la rencontre de mon frère. « Côme, commençai-je. Tu as maintenant 65 ans passés. Tu ne vas pas rester là-haut. Dorénavant, ce que tu voulais dire, tu l'as dit. Nous l'avons compris. Ça a été une grande force d'âme que la tienne. Tu as gagné. Maintenant, tu peux descendre. Vois ceux qui ont passé toute leur vie en mer. Ils savent débarquer le temps venu. Résultat, nul. Il fit non de la tête. Il ne parlait presque plus. De temps en temps, il se levait, drapé dans une couverture qui lui enveloppait la tête, et s'asseyait sur une branche pour jouir un peu du soleil. C'était là ses seuls déplacements. Une vieille femme du peuple, une sainte femme, peut-être une ancienne maîtresse, montait lui faire son ménage et lui apportait des plats chauds. Sur la place, autour de lui, il y avait toujours un cercle de gens pour lui tenir compagnie. Ils discouraient entre eux, et de temps en temps lui lançaient quelques mots, bien qu'il n'eût, c'était clair, plus envie de parler. Son état empira. Nous hissâmes un lit dans l'arbre et réussîmes à le maintenir en équilibre. Il s'y coucha volontiers. Dès lors, nous nous hâtâmes de lui donner davantage de confort. Des nattes pour l'abriter de l'air, un baldaquin, un brasero. Son état s'améliora un peu. Nous lui apportâmes un fauteuil que nous fixâmes à deux branches. Il y passait ses journées, roulé dans ses couvertures. Un matin, cependant, nous ne le vîmes ni dans son lit, ni dans son fauteuil. Nous levâmes les yeux, effrayés. Il était monté au sommet de l'arbre et siégeait à califourchon sur une branche extrêmement haute avec une chemise pour tout vêtement. « Mais que fais-tu là-haut ?» Il ne répondit pas. Il était presque raide. Il semblait ne tenir là que par miracle. Nous préparâmes un grand drap de ceux qui servent à la récolte des olives. Nous étions une vingtaine à le tenir tendu, craignant une chute fatale. Pendant ce temps, le médecin montait. Ce fut une ascension difficile. Il fallut attacher deux échelles bout à bout. À sa descente, il nous dit « Il est temps d'envoyer un prêtre ». Nous nous étions mis d'accord pour charger de l'entreprise un certain Don Périclès, son ami. Il monta avec les ornements sacrés et le ciboire. Un enfant de cœur suivait. Don Périclès resta un moment là-haut, sembla s'entretenir avec Côme, puis redescendit. « Alors, a-t-il reçu les derniers sacrements ?»« Non, non. Mais il a dit que c'était inutile, que vraiment il n'en avait pas besoin. » Nous ne pûmes rien apprendre de plus. Les hommes se fatiguaient de tenir le drap tendu. Côme, tout là-haut, ne bougeait absolument pas. Le vent se leva, un vent du sud-ouest. La cime de l'arbre se balançait. Nous étions sur le qui-vive. Alors une montgolfière apparut dans le ciel. Des aéronautes anglais s'essayaient à voler sur la côte. C'était un beau ballon orné de franges, de nœuds et de festons, avec une nacelle d'osier. Dedans, deux officiers aux épaulettes d'or, coiffés de bicornes pointues, regardaient dans leurs lunettes d'approche le paysage au-dessous d'eux. Ils braquèrent leurs lunettes sur la place. Un homme au sommet d'un arbre, un drap tendu, cette foule, c'était là d'étranges aspects du monde, vraiment. Côme, de son côté, avait levé la tête et observait attentivement le ballon. Soudain, la montgolfière fut prise dans un tourbillon. Elle commença de glisser dans le vent, en tournant comme une toupie, et fut déportée vers la mer. Les aéronautes, sans perdre courage, s'évertuaient à réduire, à ce qu'il me parut, la pression du ballon, en même temps qu'ils lançaient l'ancre dans l'espoir qu'elle s'accrocherait à quelques prises. L'ancre volait dans le ciel, argentée, pendue à une longue corde. Suivant obliquement la course du ballon, elle passa au-dessus de la place et dansa à peu près à la hauteur du noyer. Nous eûmes peur pour Côme. Nous étions loin de nous attendre à ce que nous verrions l'instant d'après. Au moment où l'ancre glissait tout près de Côme à l'agonie, il fit un de ces bonds qui lui étaient habituels au temps de sa jeunesse et s'agrippa à la corde. les pieds sur l'ancre et le corps ramassé. C'est ainsi que nous le vîmes s'envoler, entraîné par le vent, freinant à peine la course du ballon et disparaissant au-dessus de la mer. La montgolfière, après avoir traversé le golfe, put atterrir sur l'autre rive. L'ancre traînait, nue, au bout de la corde. C'est ainsi que s'en alla Côme. Sur la tombe de notre famille, une stèle célèbre sa mémoire avec l'inscription que voici. Côme l'averse du rondeau, il vécut dans les arbres, aima toujours la terre, monta au ciel.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Richard Dufour à la technique a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikois, Perrine Malinge et Claire Tessert. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à Italo Calvino.